إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. On a vu lors de notre dernière assise les deux premiers piliers de la prière qui sont la station debout et le takbir de sacralisation. Ensuite il dit رحمه الله تعالى وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. La récitation d'Al-Fatiha est un pilier dans chaque unité de prière. Ceci est donc le troisième pilier de la prière. Et comme vous le voyez, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il n'a pas donné de détails à ce sujet, mais il a mentionné ce pilier de manière absolue, de manière générale. Ceci est une indication de sa part, rahimahullah ta'ala, quant au fait qu'Al-Fatiha est un pilier de la prière pour tous. Que tu pries seul, que tu sois imam ou que tu pries derrière l'imam. Et que la prière soit à voix haute ou à voix basse. Bien sûr, cette question est sujette à divergence entre les gens de science, en ce qui concerne celui qui prie derrière l'imam, notamment lors de la prière à voix haute. Cependant, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il n'a pas fait allusion à cette divergence ici et n'a rien précisé. Ce qui nous indique que l'avis prépondérant pour lui est que la récitation d'Al-Fatiha est un pilier pour tous, sans exception. Et il s'est appuyé pour cela sur un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, rahimahullah, « Kama fi hadith, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab, wa hiya ummul Qur'an. » Comme il est venu dans le hadith, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. Puis il a dit, rahimahullah, et c'est Umm al-Qur'an, la mère du Coran, c'est-à-dire la base du Coran. On voit donc dans ce hadith qu'aucune différence n'est faite entre l'imam, celui qui prie derrière lui, ou celui qui prie seul, ni même entre la prière à voix haute ou la prière à voix basse. Donc le fait que celui qui est derrière l'imam doit être attentif à la récitation de l'imam, ceci ne l'affranchit pas de la récitation de l'Fatiha. Qu'il la lise en même temps que l'imam, ou alors durant les moments de silence de l'imam, car rien n'est rapporté quant au moment de la récitation de l'Fatiha pour celui qui prie derrière l'imam. Donc il peut la lire, ou bien en même temps que l'imam, ou alors durant les moments de silence de l'imam, ou alors après que l'imam et terminer la récitation d'Al-Fatiha. Mais l'essentiel est que tu récites cette sourate. Bien sûr, sans élever la voix, et ce pour ne pas déranger les autres prières, et surtout pour ne pas déranger l'imam. Et le sens du hadith, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas Al-Fatiha. C'est-à-dire, il n'y a pas de prière valide sans la récitation de la Fatiha. Donc celui qui ne récite pas Al-Fatiha, dans chacune des unités de sa prière, alors sa prière n'est pas valide, car il aura délaissé un de ses piliers. Cependant, si le musulman est incapable de réciter Al-Fatiha, car il ne la connaît pas encore, comme c'est le cas d'une personne qui vient d'entrer en islam par exemple, alors tout d'abord, il faut savoir qu'il lui incombe de mémoriser Al-Fatiha le plus rapidement possible. Et c'est une chose simple, Inch'Allah. Il n'y a pas de difficulté en cela. Mais s'il doit accomplir une prière avant d'avoir terminé sa mémorisation, alors que doit-il faire? La réponse est qu'il doit faire comme il est venu dans un hadith, qu'il prononce des formules de dhikr à la place, comme Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et ceci le temps qu'il mémorise Al-Fatiha. Il ne doit pas négliger cela, mais s'empresser de la mémoriser, car c'est un pilier de la prière. Le shaykh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala explique dans son commentaire que la preuve la plus forte démontrant qu'Al-Fatiha est un pilier de la prière, c'est le hadith al-Qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, « J'ai partagé la prière en deux, entre moi et mon serviteur. » Et qu'est-ce qui est visé ici par la prière ?« J'ai partagé la prière en deux, entre moi et mon serviteur. » Ce qui est visé, c'est la Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, dans ce hadith al-Qudsi, il a appelé al-Fatiha prière. Et ceci indique qu'al-Fatiha est un élément essentiel et indispensable à la prière. Et quelle est la preuve que ce qui est visé ici à la Fatiha? La preuve est la suite du hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi rabbil alamin », Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mon serviteur m'a loué ». Puis lorsque le serviteur dit « Ar-Rahman ir-Rahim », Allah dit « Mon serviteur a fait mes éloges ». C'est-à-dire, il a multiplié la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis lorsque le serviteur dit « Maliki yawmiddin », maître au jour de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mon serviteur a proclamé ma gloire ». Puis lorsque le serviteur dit « Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in », Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceci est entre moi et mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Et qu'est-ce que le serviteur il demande? Qu'est-ce que tu dis ensuite lorsque tu récites la Fatiha? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Donc lorsque tu dis cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc ça, c'est une invocation immense que tu fais lorsque tu récites al-Fatiha. Et on verra le sens de ces versets à travers l'explication du shaykh, rahimahullah ta'ala. Donc lorsque tu récites cette sourate, tu dois penser à ce hadith. Et penser que lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit mon serviteur m'a loué. Jusqu'à la fin du hadith. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait nommé Al-Fatiha, prière dans ce hadith. Cela soutient le fait que c'est un pilier de la prière pour toute personne qui prie. C'est pour cela qu'il ne convient pas à celui qui prie derrière l'imam de délaisser la récitation de la Fatiha, et ce, même lors des prières à voix haute. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Bismillahirrahmanirrahim, barakatun wasti'anatun ». Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, après nous avoir mentionné le jugement de la récitation de la Fatiha, il va nous en donner une explication concise. Il commence par l'explication de la basmala. Lorsque tu dis « Bismillahirrahmanirrahim », au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit ceci est une bénédiction et une demande d'aide. C'est-à-dire, tu recherches la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la mention de son nom. Et tu lui demandes de t'aider et de te faciliter dans ta récitation. Et la basmala, elle doit être prononcée à voix basse et non pas à voix haute. Car la récitation à voix haute, elle commence par « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Comme il est venu dans le hadith authentique rapporté par Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « J'ai prié derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, et ils ouvraient, c'est-à-dire ils commençaient la récitation, et ils ouvraient la prière par « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Et dans une autre version du hadith, il dit « J'ai prié derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar et Uthman, radiyallahu ta'ala anhum, et je n'ai entendu aucun d'entre eux dire à voix haute « Bismillahirrahmanirrahim ». C'est-à-dire qu'il prononçait la basmala à voix basse. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit « Alhamdulillah, alhamdu thana'un, wal alif wal lam » L'istighraq jami'il mahamid. Alhamdulillah, c'est-à-dire toutes les louanges sont à Allah. Et la louange, c'est le fait de prononcer et proclamer les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le alif et le lam dans alhamd, ils indiquent que l'ensemble des louanges, elles reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, comme on l'a dit dans le cours dernier, car il se caractérise par les attributs de perfection subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur il dit, rahimahullah, wa amma al-jamil alladhi la sun'a lahu fihi mithlu al-jamal wa nahwihi فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. Après avoir parlé du sens de la louange, il nous apporte ici une petite précision. Et il dit quant aux bonnes choses, desquelles le serviteur n'a aucune grâce, comme la beauté ou autre. Alors les éloges faits à ce sujet, elles s'appellent en arabe « madh » et non « hamd ». C'est-à-dire qu'en réalité, ce ne sont pas des louanges, ce ne sont pas des éloges, mais ce sont plutôt de simples compliments, des politesses. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, ici, il parle des choses par lesquelles le serviteur se caractérise, mais qui ne sont pas dues à sa volonté. Il a mentionné comme exemple la beauté. La beauté physique, ce n'est pas une chose que la personne a choisie, mais c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Donc s'il est complimenté à ce sujet, en arabe ceci ce ne s'appellera pas hamd, mais ça s'appellera madh. C'est-à-dire que c'est une politesse, un simple compliment. Alors que les choses qu'il fait de son plein gré, comme ses œuvres de bien, sa bienfaisance, sa gentillesse, son bon comportement, toutes ces choses sont des choses qu'il fait de son plein gré. Et pour celles-ci, le serviteur peut être loué. Ensuite, il dit, rahimahullah, Rabbil Alamin. Donc la suite du verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le Seigneur de l'univers. Al-Rabbu huwa al-Ma'boud. Al-Khaliq al-Raziq al-Malik al-Mutasarrif. Murabbi jami' al-Khalq bin-Ni'ami. Le Seigneur, c'est celui qu'on adore. C'est le seul à mériter l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Il est le Créateur, c'est-à-dire le Créateur de toutes choses. Celui qui accorde la subsistance à toutes choses. Celui qui possède toutes choses dans cet univers et celui qui dirige toutes choses. Et c'est lui qui a éduqué l'ensemble de la création par ses bienfaits. Donc lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu loues Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui le Seigneur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'accorde ta subsistance. C'est lui qui te possède. Et c'est lui qui gère l'ensemble des choses qui se passent dans cet univers. Tous les bienfaits dont tu profites ici-bas, ainsi que les bienfaits de l'au-delà, ils ne sont accordés que par Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et le Seigneur est celui qu'on adore. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqara, « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. » « Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. » Et on a développé cette question lors de notre étude des trois fondements. Donc, ceux qui n'ont pas suivi les cours avec nous peuvent y revenir, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Al-alamin, kullu ma siwa Allahi alam, wa huwa rabbul jami'i. » Il dit le sens de l'alamin, tout ce qui est autre qu'Allah est appelé alam. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'ensemble des créatures. Ensuite, il explique le deuxième verset, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit Ar-Rahman, Rahmatun Amma, bijami'il makhlouqat. Le nom Ar-Rahman, il indique l'attribut d'Ar-Rahma, la miséricorde, la clémence. Et cette miséricorde, elle est générale pour l'ensemble des créatures. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'était sa clémence et sa miséricorde envers ses créatures, aucun parmi eux n'aurait subsisté. Mais il fait miséricorde à l'ensemble des créatures, croyants et mécréants, en leur accordant ce dont ils ont besoin dans ce bas monde. Ensuite, il dit Ar-Rahim, Rahmatun khassatun bil mu'minin. Quant à la miséricorde, dans le nom Ar-Rahim, c'est une miséricorde qui est spécifique aux croyants. En effet, il dit après, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, et il est miséricordieux et il est rahim envers les croyants. C'est-à-dire qu'il y a une miséricorde qui est générale, qui couvre l'ensemble des créatures, et une miséricorde qui est spécifique aux croyants. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde une miséricorde spécifique aux croyants, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les croyants à la vérité. Cette vérité qui est ignorée par nombre de personnes parmi ces créatures. Également, il les a orientés sur le droit chemin, celui duquel se sont détournés nombre de ces créatures. Et ceci est sa miséricorde spécifique aux croyants dans ce bas monde. Quant à l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur accordera également une miséricorde qui leur est propre. Et ce, en les mettant à l'abri des grandes frayeurs au jour de la résurrection. Également, lors de la mort du croyant, les anges le rassurent et lui annoncent la bonne nouvelle du paradis et qu'il a obtenu le salut du feu de l'enfer. Donc tout ceci, c'est une miséricorde qui est spécifique aux croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé par amour envers eux. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, Maliki yawmiddin, maître au jour de la rétribution. Yawmul jaza'i wal hisab, yawma kullun yujaza bi'amalihi, in khayran fa khayr, wa in sharran fa shar. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa ma adra kama yawmuddin. Donc, ad-din ici, ce n'est pas la religion, mais c'est al-jaza, la rétribution. Il dit donc au sujet de ce verset, c'est le jour d'al-jaza, la rétribution, et également le jour des comptes, où chacun rendra des comptes à propos des œuvres qu'il a accomplies ici-bas. Et il sera rétribué en fonction de celle-ci. Il dit, rahimahullah, le jour où tout le monde sera rétribué en fonction de ses œuvres. Si elles sont bonnes, alors il sera récompensé en bien, et si elles sont mauvaises, alors il sera récompensé en mal, en fonction de ses œuvres. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui se présenteront devant lui avec leur balance remplie de bonnes œuvres. Ensuite, il a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ » et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution. Puis il a dit « وَالْحَدِيثُ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. Il a aussi mentionné le hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il aurait dit « L'intelligent est celui qui rabaisse sa personne et œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Et le faible d'esprit est celui qui fait suivre à son âme ses passions et qui désire d'Allah la bonne rétribution. » Donc ce hadith, tout d'abord, il faut savoir que sa chaîne de transmission, elle est faible, comme l'a mentionné l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Cependant, le sens du hadith, il est juste, comme le prouvent nombre de textes du Coran et de la Sunna. En effet, regarde le sens de ce hadith. Comment l'intelligent a-t-il été décrit? Celui qui est lucide, celui qui est sensé, c'est celui qui rabaisse sa personne, qui rabaisse son âme, c'est-à-dire qu'il l'a contraint à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Car celui qui est sensé, l'homme lucide, il sait qu'il n'est dans ce bas monde que de passage, et qu'il ne va pas demeurer dans ce bas monde. Mais la mort lui viendra coûte que coûte. Et qu'est-ce qu'il va emporter avec lui, si ce n'est ses œuvres? Donc celui qui est sensé, il rabaisse sa personne. Il s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il contraint sa personne à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Et il ne se laisse pas distraire par ce bas monde au détriment de la vie de l'au-delà. Tandis que le faible d'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait suivre à son âme l'ensemble de ses désirs, toutes ses passions. Il ne restreint pas son âme aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il avait oublié le jour de la rétribution. Mais le pire dans cela, c'est que celui-ci a de faux espoirs. Il délaisse la prière, il fait des péchés à longueur de journée, il transgresse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, il espère d'Allah subhanahu wa ta'ala une bonne rétribution. Il pense que comme ça, il va rentrer au paradis. Pourquoi? Si tu l'interroges à ce sujet, il te dira, car la foi est ici. Il va te montrer son cœur. La foi est dans le cœur. Et il pense que ce n'est pas grave s'il délaisse la prière, il fait des péchés, il délaisse toutes les obligations, il commet tous les péchés, ce n'est pas grave. La foi est dans le cœur. Allah, il sait ce qu'il y a dans son cœur. Naam, Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Effectivement. Mais tes actes, ils démontrent qu'il y a un grand problème dans ton cœur. Et cette façon de penser, c'est une forme d'irja. Al-irja, c'est une croyance erronée d'un groupe des gens de l'innovation que l'on appelle al-murji'a, qui pensent que le fait de délaisser des œuvres n'est pas nuisible et ne fait pas descendre la foi. Donc, ils pensent que la personne, elle peut faire autant de péchés qu'elle veut, délaisser toutes les obligations, et il sera au paradis tant qu'il a la foi dans son cœur. Il croit qu'il suffit de dire « La ilaha illallah » de croire en Allah dans son cœur pour rentrer au paradis. Ceux-ci sont les faux espoirs, les espoirs mensongers par lesquels sont touchés ceux qui ont été atteints par cette croyance, la croyance des murji'a,
qui pensent que l'iman, la foi, c'est le simple fait de dire la ilaha illallah. Alors que la croyance des gens de la sunna, c'est que la foi, elle est composée de croyances, de paroles et d'actes. Et elle augmente par quoi? Par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle diminue par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme est belle la parole de l'imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, qui a dit selon le sens rapproché, Al-Iman, la foi, ce n'est pas que des désirs. Et ce n'est pas juste une parure. Mais la foi, c'est une chose qui est ancrée dans le cœur et qui est confirmée par les œuvres. Méditez sur cette définition. La foi, c'est quelque chose qui est ancré dans le cœur et qui est confirmé par les œuvres. Les deux choses sont indispensables. La croyance du cœur, elle ne suffit pas. Mais cette croyance, elle doit être confirmée par les œuvres. De même que les œuvres toutes seules, elles ne suffisent pas. Celui qui œuvre mais qui ne croit pas dans son cœur. Ceci est l'œuvre de qui? Ceci est l'œuvre des hypocrites. Ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'ils seront plus bas fond du feu. Ils manifestent ouvertement les bonnes œuvres, mais au fond de leur cœur, il y a la mécréance. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc il est indispensable que cette croyance qui est ancrée dans ton cœur, elle soit confirmée par tes œuvres. Et ce en accomplissant des bonnes œuvres. Quant à celui qui prétend avoir la foi dans son cœur, mais qui ne fait aucune œuvre de bien, qui ne se soumet pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne délaisse pas les interdits, et qui te dit tout le temps, Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Dès que quelqu'un le conseille, il lui dit, ne fais pas ceci, viens à la mosquée, prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, délaisse ses péchés, il te dit, ma foi, elle est ici, Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Celui-ci, en réalité, il a été dupé, il a été leurré par le diable, et il s'est égaré, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc comme on a dit, la foi, elle comporte une croyance du cœur, mais également parole de la langue et œuvre du corps. Ceci est la foi authentique, la foi comme l'ont défini les gens de la sunna et du groupe. Et celui qui fait cela, qui a la foi ancrée dans son cœur, et que cette foi elle est confirmée par ses œuvres, alors ainsi, il obtiendra l'walaya. Il fera partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu saches que par tes œuvres, par tes croyances, il t'est possible de devenir un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, en étant assidu à tes obligations, tu te soumets aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu délaisses ses interdits. Et tu fais suivre cela d'œuvres surrogatoires jusqu'à obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de ce moment-là, tu feras partie des alliés d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si tu œuvres ainsi, lorsque tu lui adresseras une demande, il te l'accordera. Et si tu lui demandes la protection, il te protégera subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala il dit au sujet de la parole d'Allah Iyyaka na'bud ay la na'budu ghayrak 'ahdun bayna al-'abdi wa bayna rabbih alla ya'buda illa iyyah. Donc lorsque tu dis Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Il dit, rahimahullah, cela signifie « Nous n'adorons pas autre que toi. » Et ceci est un engagement entre le serviteur et son Seigneur qu'il n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens même du tawhid. « Iyyaka na'bud » C'est toi seul que nous adorons et nous n'adorons nul autre que toi. « Wa iyyaka nasta'in ahdun bayna al-abdi wa bayna rabbihi alla yasta'ina bi ahadin » غير الله سبحانه وتعالى. Donc lorsque tu dis إياك نستعين, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours, ceci est un engagement entre le serviteur et son Seigneur qu'il n'implore l'aide de personne si ce n'est d'Allah سبحانه وتعالى. Comme il est venu dans le hadith d'Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit إذا استعنت فاستعن بالله. Si tu dois demander l'aide, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi il a précisé ici al-isti'ana? La demande d'aide, cela fait partie de l'adoration. C'est une des formes d'adoration. Il a précisé ceci car après avoir mentionné le fait que tu n'adores qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu saches que cette adoration, tu ne peux l'accomplir et la concrétiser si ce n'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit rahimahullah
اهدنا الصراط المستقيم. معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. Donc il dit au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous sur le droit chemin. Le sens de guide-nous, c'est-à-dire indique-nous, oriente-nous et raffermis-nous sur ce droit chemin. Ceci est ce que tu demandes dans chacune de tes prières. Et il faut que ton cœur soit présent lorsque tu adresses cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'elle te soit accordée. Guide-nous sur le droit chemin, oriente-nous, indique-nous et raffermis-nous sur ce chemin. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَالصِّرَاطِ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ الرَّسُولِ وَقِيلَ الْقُرْآنِ وَالْكُلُّ حَقِّ. Il dit, الصِّرَاطِ, le chemin, c'est l'islam, la religion de l'islam. Et on a dit aussi que c'est le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit aussi que c'est le Coran. Ensuite, il dit, rahimahullah, et tout est vérité. C'est-à-dire que ces trois paroles, elles sont justes et elles sont véridiques. En effet, as-sirat, le chemin que tu empruntes, c'est l'islam. C'est la religion de l'islam. Tu suis cette religion. Mais qui t'a appris cette religion? C'est le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il t'a appris cette religion? Via le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Coran. Donc, le Coran, c'est ce chemin que tu dois suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a indiqué le chemin à suivre dans le Coran. Car ce Coran, il guide à la meilleure des voies. Donc, c'est lui le chemin, as-sirat. Et al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le messager, il est juste de dire que c'est lui qui est visé par as-sirat. Pourquoi? Car c'est lui qui t'a indiqué ce chemin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. En vérité, tu guides vers un droit chemin. C'est-à-dire, tu orientes vers un droit chemin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a orienté les hommes et les djinns vers ce droit chemin. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, a accordé une guidée particulière en facilitant aux croyants d'emprunter ce chemin. Ensuite, il dit, rahimahullah, al-mustaqim, droit, c'est-à-dire le chemin droit. Cela signifie, alladhi la iwaja fih. Celui dans lequel il n'y a aucune tortuosité. C'est-à-dire que c'est un chemin droit qui va dans une seule direction, ni à droite ni à gauche, mais il va tout droit. Et ceci est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a décrit ce chemin. Il nous a indiqué quel était ce chemin. Il a dit, صراط الذين أنعمت عليهم. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Le cheikh il dit, rahimahullah ta'ala, tariqul mun'ami alayhim. Donc la voie qu'ont emprunté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses faveurs. Et qui sont-ils, ceux qu'Allah a comblé de ses faveurs? Le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné un autre verset qui nous permet de savoir qui sont ceux qui ont été comblés des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et qui sont-ils? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que sont-ils? Donc comment il faut faire pour être sur ce chemin? Le chemin de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses faveurs? Qu'est-ce qu'il dit au début du verset? Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Quiconque obéit à Allah et au messager. Il est indispensable pour être sur ce chemin d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le droit chemin. Le chemin de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses faveurs. Ensuite, après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur ce chemin droit, tu lui demandes de te préserver d'un autre chemin, qui est un chemin mauvais. Il dit, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère. Et qui sont-ils? L'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit, وَهُمُ الْيَهُودِ مَعَهُمْ عِلْمٌ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُجَنِّبَكَ تَرِيقَهُمْ. Il dit, ce sont les juifs, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Pourquoi? Car ils ont une science,
qu'ils n'ont pas mis en pratique.
Et pour cela, ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il invoque et il dit, « Nous demandons à Allah de t'écarter de leur voie. » Amin. Ensuite, il dit, « Wala dhalin, ni celui des égarés. » وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال نسأل الله أن يجنبك طريقهم.
Il dit, les égarés, ce sont les chrétiens, car ils adorent Allah comment? Avec ignorance et égarement, sans science provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah, il invoque encore et il dit, nous demandons à Allah de t'écarter de leur voie. Amin.
Ensuite, il dit, ودليل الضالين, et la preuve concernant les égarés, قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
Dit, voulez-vous que nous vous apprenions qui sont les plus perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. C'est-à-dire qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Et ils pensent ainsi faire le bien. Ils pensent être ainsi dans des œuvres de bien. Et ceci n'est pas juste et n'est pas correct. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ce sont les plus perdants en œuvre. Pourquoi? Car ils se fatiguent à accomplir des œuvres qu'Allah n'a pas légiférées. Et ces œuvres, elles sont rejetées. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Aïcha, dans l'authentique de l'imam muslim rahimahullah, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors son œuvre est rejetée. Donc ceci est une explication concise de Surat al-Fatiha que l'auteur rahimahullah ta'ala a fait. Et pour compléter le sens au sujet de la voix de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et des égarés, ces deux voix desquelles nous devons nous écarter, il a mentionné deux hadiths que l'on va brièvement lire avant de terminer cette assise, incha'Allah ta'ala. Il dit, وَالْحَدِيثُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ. Vous suivrez certes les traces ou les traditions de ceux venus avant vous, pas à pas, au point que s'ils entraient dans la tanière d'un lézard, vous y entreriez. C'est-à-dire, s'ils entreraient dans la tanière d'un lézard, de la même manière que rentre le serpent dans cette tanière, afin de nuire au lézard. Même dans cela, vous les suivrez. Alors les compagnons, ils ont dit, « قالوا يا رسول الله, اليهود والنصارى, قال فمن أخرجا. » Ils ont dit, « Oh, messager d'Allah, serait-ce les juifs et les chrétiens ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, « Qui d'autre qu'eux ?» Et ce hadith est rapporté par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance, sans apprendre les règles nécessaires aux adorations qu'il doit accomplir. Il s'assimile ainsi, d'une certaine manière, aux chrétiens, qui ont œuvré sans science. Quant à celui qui a le savoir, mais qui délaisse sa mise en pratique, il s'assimile, lui, aux juifs qui avaient le savoir et qui ne l'ont pas mis en pratique et qui ont ainsi encouru la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette similitude, les gens, ils sont de deux sortes. Il y a la similitude aux chrétiens, qui consiste à œuvrer sans science, à rester dans l'ignorance et l'égarement, en délaissant l'apprentissage de la science. Celui-ci, il s'égare, et il égare les gens s'il parle avec ignorance. Et il s'est ainsi assimilé aux chrétiens. Quant à ceux qui connaissent la vérité et qui délaissent la vérité par suivi de leur passion et de leur désir, alors ceux-ci, ils s'assimilent alors aux juifs qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu médites sur la situation de beaucoup de musulmans aujourd'hui, tu verras que beaucoup d'entre eux sont dans l'une de ces deux situations, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde et leur a facilité le suivi du droit chemin. Ensuite, il dit, رحمه الله, الحديث الثاني, افترقت اليهود على 71 فرقة, وافترقت النصارى على 72 فرقة, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة, كلها في النار
إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il a mentionné un deuxième hadith qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous seront au feu à l'exception d'un seul groupe. Alors les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont dit, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce sont ceux qui sont sur ce quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la venue de la division au sein de la communauté. Et ceci est inévitable. Et il a mentionné ici 73 groupes. Et les savants, rahimahumullahu ta'ala, ont mentionné que ce qui est visé par les 73 groupes, ce sont la base des groupes. Al-Khawarij, Al-Qadariya, Al-Shi'a, Al-Jabriya, et ainsi de suite, parmi les sectes, s'affiliant à l'islam. Mais chacun de ces groupes se subdivise ensuite en sous-branches, qui découlent de la base de ces groupes. Donc ces subdivisions, il se peut qu'elles dépassent les 73. En effet, si tu recenses l'ensemble des groupes présents en islam, tu verras qu'il y en a plus de 73. Mais la plupart de ces groupes se rejoignent sur une base parmi ces groupes des gens de l'innovation. De jour en jour, tu verras que ces groupes augmentent. Chaque jour, une nouvelle branche d'un groupe ou autre apparaît. Une personne instaure une innovation et se fait leader d'un groupe s'écartant et se séparant du groupe des musulmans. Donc les groupes, ils ne cessent d'augmenter. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit au sujet de ces groupes, ils seront tous en enfer, tous au feu de l'enfer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils sont sous la menace du feu de l'enfer. Et ceci est la croyance des gens de la sunna. Car celui qui ira en enfer pour y demeurer éternellement, c'est celui qui est mort sur le polythéisme ou la mécréance. Quant à celui qui meurt sur l'islam, mais en ayant commis des innovations ou des péchés desquels il ne s'est pas repenti, alors celui-ci est sous la menace du feu de l'enfer. Et il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le châtiera à hauteur de ses péchés. Puis il entrera au paradis. Et si Allah veut, il le pardonnera. Donc tous ces groupes sont sous la menace du feu de l'enfer, à l'exception d'un seul groupe. Et quel est ce groupe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce sont ceux qui sont sur ce quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas altéré la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'ont pas changé la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont rien ajouté à celle-ci et qui n'en ont rien diminué. Mais ils se sont contentés de ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la voie sur laquelle l'ont suivi ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et certes, ceci est sirat al-mustaqim, le droit chemin vers lequel on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans chacune de nos prières. Et c'est également al-mahajjatul bayda, celle à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion dans un autre hadith à la fin de sa vie. Il a dit à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, je vous ai laissé sur une voie blanche, sa nuit est semblable à son jour, nul ne s'en éloigne sans périr. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et ici, il est important de savoir une chose. Comment peux-tu savoir si tu fais partie de ce groupe ou non? Est-ce que pour faire partie de ce groupe, il suffit de se donner une épilation et de dire « Je fais partie du groupe sauvé du feu. Je fais partie des gens de la sunna et du groupe. » Beaucoup de groupes prétendent cela. Si tu médites sur les groupes qui s'affilient à l'islam, beaucoup prétendent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et ils prétendent être le groupe sauvé des gens de la sunna et du groupe. Cependant, ceci n'est pas basé sur les prétentions. Il ne suffit pas de dire « je fais partie du groupe sauvé, je fais partie des gens de la sunna » pour faire réellement partie de ce groupe. Alors comment fais-tu pour savoir si tu en fais partie ou non? Tu sauras cela en t'instruisant au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en apprenant l'islam, en apprenant ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi l'ont suivi ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Celui qui ignore cela, il ne peut pas être sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas suivre les compagnons radiyallahu ta'ala anhum s'il n'apprend pas.
Donc tu dois apprendre cette religion, savoir quelle était la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'ont reçue de sa bouche ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Comment ils étaient dans leurs adorations, comment ils étaient dans leur comportement, comment ils étaient dans leurs transactions et dans l'ensemble de leurs œuvres. Et tout ceci s'obtient par l'apprentissage de la science religieuse. Donc si tu veux être sur ce droit chemin et que tu veux faire partie de ce groupe qui sera sauvé du feu, il est indispensable pour toi d'emprunter le chemin de l'apprentissage de la science religieuse afin de connaître ce sur quoi était le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum dans l'ensemble des domaines de la religion. On va donc s'arrêter là, incha'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.